Vous avez repéré que Jésus s'y reprend à deux fois parce que Saint Jean nous dit que les pharisiens ne comprennent pas de quoi il parle. Donc Jésus en remet une couche. Alors on se dirait, mais il devrait normalement à peu près répéter avec d'autres mots ce qu'il a dit avant. Enfin, c'est souvent comme ça qu'on fait, je sais pas, moi quand mon prof de maths essayait de me faire comprendre une leçon, ce qui était absolument désespéré par avance, eh bien finalement il essayait de trouver une autre manière de me faire comprendre la leçon. Bon, il était toujours en échec quelques heures après, mais c'est pas grave. Et donc Jésus devrait rester sur la même leçon, pour redire la même chose. Ce qui est curieux ici, c'est que Jésus ne redit pas la même chose. Par contre, on a un peu l'impression qu'il enfonce un clou, qu'il précise, qu'il va plus loin dans son propos. Une chose est de dire « je suis le berger », donc ça veut dire « les brebis me suivent », donc ça, l'image, on se la figure assez bien. Les brebis qui suivent leur berger, qui reconnaissent sa voix, puisque la voix du berger leur est familière. Par contre, elles ne suivent pas l'étranger, elles s'enfuient loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Bon, jusque-là, on se demande pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas compris. Peut-être d'ailleurs, Saint Jean nous dit qu'ils n'ont pas compris. Peut-être que c'est... Effectivement, ils n'ont pas compris, mais peut-être qu'ils pensent avoir compris. Mais que Jésus voit qu'en fait, ils n'ont pas compris ce qu'il y avait à comprendre. Ils n'ont pas compris ce qu'il fallait voir dans cette parabole. Alors quand Jésus dit, avec ce même expression, « moi je suis le bon pasteur, moi je suis la porte », Jésus dit quelque chose de différent, mais il va plus loin. Suivre un pasteur, suivre quelqu'un, on voit ce que cela veut dire, être disciple de celui que l'on suit. Aujourd'hui, on suit les gens sur les réseaux sociaux, sur YouTube, les influenceurs, ils ont des gens qui les suivent. Mais ici, Jésus ne veut pas se présenter seulement comme quelqu'un dont on serait, dont on s'enticherait et que l'on suivrait comme les hommes sur cette terre suivent une célébrité ou suivent l'enseignement d'un gourou qui pourrait d'ailleurs les mettre sous emprise, qui pourrait d'ailleurs leur ôter leur liberté. Jésus ici, quand il dit « je suis la porte », va plus loin. Ça veut dire qu'il faut franchir la porte. Et pas simplement pour sortir, comme c'était le cas dans la première parabole. Il les fait sortir. Ici, il dit pour qu'elles puissent sortir, qu'elles puissent rentrer et trouver un pâturage. Et donc Jésus dit quelque chose de plus sur lui et sur les brebis. Il ne s'agit pas simplement de sortir à la suite de Jésus. Il s'agit pour Jésus de permettre aux brebis d'évoluer dans un sens ou dans l'autre, dans tout sens, de pouvoir aller trouver le vert pâturage. Et si elles peuvent sortir et rentrer en franchissant cette porte, c'est que dorénavant, cette porte ne les bloque pas, au contraire, elle ouvre une liberté possible, elle leur permet d'aller, de venir et de se nourrir sur le vert pâturage qui leur fait du bien. Ce bon pasteur-là, qui est aussi une porte, nous fait rentrer dans un espace de liberté. Ce n'est pas un gourou qui y met sous emprise. Il est bon, ce pasteur. Et sa bonté se manifeste pour nous, les brebis, par le fait que ce pasteur rend libre les brebis. Il est un pasteur dont la voix nous est familière, peut-être très lointainement familière. Il y a des gens qui ont peut-être quitté le Seigneur il y a très longtemps. Et pourtant, il s'agit de réveiller cette source vive en eux. Et peut-être que pour certains, ce sera que dans ce face-à-face, au soir de leur vie, que ils se diront, mais oui, cette voix, je la connais, en fait. d'accord, ils reconnaîtront quelque chose d'enfoui très profondément en eux, et peut-être que certains, sur leur lit de mort ou au-delà de la mort, se prononceront pour dire « mais je veux bien suivre ce pasteur ». Mais il y a un pasteur qui est aussi une porte, et ce pasteur, ceux qui le reconnaissent, qui disent « mais cette voix, oui, je la reconnais comme la voix de celui que je veux suivre », à ce moment-là, ils s'aperçoivent qu'il leur ouvre un abîme, un espace immense, un pâturage abondant. Il leur ouvre la profusion des dons de Dieu, jusqu'à ce qu'ils aient, nous dit Jésus, la vie en abondance. En abondance. C'est pas simplement que Jésus nous maintient dans une sorte de vie ou de survie, dans une vie avec le juste nécessaire. Non, il y a de l'abondance, il y a du surcroît, il y a une plénitude généreuse. Vous savez, cette mesure tassée, débordante dont parle Jésus, vous savez, cette multiplication des pains où il en reste 12 paniers, cette abondance du cœur de Dieu qui donne avec abondance. Ce pasteur est bon parce que il ne fait pas simplement que nous demander de le suivre, il nous donne à foison, à profusion, et il nous donne toute liberté pour jouir de ses dons. Intéressant. Jésus que nous suivons n'est pas un gourou qui restreint notre liberté. Il est celui qui permet à notre liberté de se déployer abondamment. Vous savez cette belle expression de saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Mais aime, il redit après, mais aime. Si on est dans l'amour de Dieu, alors notre liberté nous permet de faire ce que nous voulons, beaucoup de choses, plein de choses. Le baptisé et les nouveaux baptisés de Pâques, Dieu leur a donné d'être restaurés dans la plénitude de leur liberté. Parfois, nous voudrions que Dieu nous dise ce que nous devons faire. Incroyable nombre de fois qu'un prêtre à l'accueil reçoit quelqu'un qui dit « voilà, j'aimerais que vous me disiez ce qu'il faut que je fasse. » Mais bon, mon bon monsieur ou ma bonne dame, aime et fais ce que tu veux. Dieu ne te dit pas « tu dois rentrer au Carmel, tu dois être prêtre, tu dois te marier avec Géraldine ou Samuel. » Non, non, il ne te dit pas ça, il te dit « aime et fais ce que tu veux. » Ah oui, non, mais j'ai peur de me tromper. Mais prie l'Esprit Saint, déploie ta liberté. Le baptisé est un homme, une femme qui a retrouvé la plénitude de sa liberté. Et Dieu se réjouit de voir les brebis du troupeau se déployer dans leur liberté. Ce troupeau est étonnant parce que dans ce troupeau n'est pas grégaire. Nous ne sommes pas justement réduits à l'état simplement de bétail. Dans ce troupeau, nous avons un pasteur qui nous amène sur le vert pâturage comme Dieu a conduit son peuple sur la terre promise. Comme il nous conduit dans une liberté qui se déploie de plus en plus. Il y a une manière d'être baptisé qui souvent ne va pas lorsque le baptisé veut être infantilisé. Lorsque le baptisé veut qu'on lui dise exactement en tout point ce qu'il doit faire. Et lorsque l'Église d'ailleurs déploie un enseignement moral, elle montre un chemin de liberté et elle dénonce ce qui bloque notre liberté. Et elle éclaire notre conscience pour que notre liberté se déploie plus pleinement, conformément à notre dignité. La liberté chrétienne, c'est la liberté dans l'esprit. Saint Paul en parle en parlant de la liberté propre aux fils, au pluriel, les fils de Dieu. Nous avons quitté l'esclavage et nous avons été affranchis de l'esclavage et nous avons été faits fils. Alors regardons les actes des apôtres, voilà un exemple de liberté chrétienne. Simon-Pierre qui prêche en toute liberté de cœur, sans respect humain, sans amour propre. Il s'adresse à des milliers de gens, à voix haute. Il ne craint pas d'annoncer le Christ, alors que bien des choses pourraient le retenir. Quelque temps avant, il était claquemuré. Et puis, il n'a que des ennuis à s'attirer. Il n'a rien de bien aux yeux du monde, à recevoir, aucun éloge, aucune richesse, aucun compliment. Il n'a que des ennuis à s'attirer. Et voilà cette liberté qui fait qu'il s'affranchit de ce qui devrait le retenir enfermé au Cénacle. Et il appelle à la conversion. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés. Il ne dit pas, tout est bien, non, non. Il y a bien des péchés dans notre vie, et ils restreignent notre liberté, notre vie de fils. Souvent, et parfois, ils peuvent la bloquer même. Et il leur dit, vous recevrez alors le don de l'Esprit-Saint. Il a à peine reçu l'Esprit-Saint, qu'il promet aux autres qu'ils recevront le don de l'Esprit-Saint. Une sorte de cascade, de don en cascade, de l'Esprit-Saint qui fait des fils et qui rend libres. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés, 3000, pas mal. Nous, on en avait 4 à la nuit pascale, c'était un bon début. Et voilà que on voit ce feu se propager depuis les actes des apôtres. Et Saint-Pierre devient un multirécidiviste de la liberté chrétienne, puisqu'on l'a entendu parler dans les actes des apôtres, d'accord? Et puis après, il écrit une lettre. Bon, deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre. Il y a une première, parce qu'il y a une deuxième aussi. Vous avez tous lu les lettres de Saint-Pierre, rassurez-moi. Non, parce que si vous mourrez demain et vous n'avez pas lu les lettres de Saint-Pierre, il y a un problème. On est d'accord. Il y a un problème. Donc, il faut lire les lettres de Saint-Pierre. Les lettres de Saint-Paul, les actes des apôtres, il faut lire les actes des apôtres, c'est pareil. Et les lettres de Saint-Pierre. Voilà. Et voilà qu'avant toute liberté, il raconte ce que le Christ a fait. Et c'est cette manière par laquelle il nous parle de celui qui a porté nos péchés dans son corps sur le bois. Celui dont nous dirons tout à l'heure « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». C'est intéressant. Un enfant du catéchisme, un jour, j'étais là, et on avait posé sur le sol les différentes parties de la messe, des grandes étiquettes avec les différentes parties de la messe. Et on avait dit aux enfants, prenez les objets dans la pièce et mettez à chaque endroit ce qui vous paraît correspondre à la messe. Et il prend la statue du bon pasteur, l'évangile d'aujourd'hui. Et il le pose sur la lecture de l'évangile. Et la catéchiste lui dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que les brebis écoutent sa voix. Et donc, on proclame l'évangile, c'est le bon pasteur qui parle à ses brebis. Je dis, bon, c'est bien, ce gamin a compris des choses. Et puis, son copain de cathé, un peu plus tard, retire la statue du bon pasteur de là, ok, et la déplace. Et la fait avancer plus loin. Et il la pose, il ne la lâche pas au hasard, sur Agneau de Dieu. Agnus Dei. Alors Akachi dit, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que le pasteur s'est fait agneau dans son troupeau pour prendre les péchés des brebis. Il s'est fait agneau. Bon catéchisme. Voilà que quand Saint-Pierre nous dit que lui-même a porté nos péchés, il nous parle d'un pasteur qui a pris sur lui toutes les peines et tout le mal qui frappe le troupeau. Et il s'est abaissé, se faisant l'agneau de Dieu. Ce bon pasteur est un très bon pasteur. Il a livré sa vie pour ses brebis. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Alors pour vous impressionner un peu plus, mais c'est pas moi, c'est les enfants du caté, il y a un troisième enfant qui a fait un truc de dingue. J'en revenais pas. Je me suis touché, palpé pour me dire non, c'est vrai, ça existe. Il y a un enfant qui a pris une image du Christ glorieux, d'accord ? Et il l'a posée sur l'anamnèse. Je sens qu'il faut que je réexplique ce que c'est l'anamnèse, ça m'inquiète. Vous avez fait du caté, les amis, là ou pas ? Non, bon, l'anamnèse. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. D'accord, c'est ça l'anamnèse, l'acclamation après la consécration. Ça va ? Je ne vous ai pas perdu ? Bien, très bien. Donc, il prend le Christ glorieux et le met sur l'anamnèse. Et la catéchiste lui dit, pourquoi tu as fait ça ? Il dit, parce que nous attendons ta venue dans la gloire, c'est la parousie. Dans les chiffres et les lettres, et au Scrabble, il y a assez peu souvent le mot parousie, hein, on est d'accord ? Et la catéchiste lui dit, mais d'accord, c'est quoi la parousie ? Nous attendons ta venue dans la gloire, c'est la parousie, c'est quand le Christ, à la fin des temps, se manifestera dans sa gloire, au moment de la résurrection et du jugement dernier. Ok, il n'y avait rien à dire. Voilà. Voilà ce bon pasteur. Et dans son retour en gloire, nous aurons une vie en abondance. La résurrection n'est pas réservée qu'à Jésus lui-même. Nous aussi, c'est une vie en abondance que Jésus veut pour nous, mais nous pouvons sur cette terre déjà, en attendant son retour glorieux, commencer à suivre le bon pasteur, franchir la porte qu'il est pour déployer notre liberté chrétienne dans la joie et vivre déjà en abondance de tous ses dons. Ce bon pasteur est vraiment bon et nous avons besoin de sa bonté pour qu'il nous conduise et que nous soyons ainsi délivrés du mal. La bonté du bon pasteur chasse le mal de nos vies et nous amène déjà à vivre abondamment. Amen.